Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Vous êtes la sixième invitée des matins présidentiels de France Info jusqu'à vendredi prochain. Nous continuons à recevoir les candidates, les candidats à l'élection présidentielle ou leur soutien. Vous défendez la candidature de Lutte Ouvrière, le camp des travailleurs. À mes côtés ce matin pour vous interroger, Myriam Ankawa, bonjour.
Bonjour Jules, bonjour Madame Arthaud.
Journaliste à la chaîne parlementaire. Première question, parce que vous êtes une candidate assez singulière dans la mesure où vous nous dites que vous ne voulez pas forcément aller à l'Élysée, être élu, que c'est pas comme ça qu'on va changer les choses. Alors, pourquoi voter pour vous ?
Parce qu'il faut montrer qu'il y a des femmes et des hommes dans ce pays qui veulent changer cette société, qui veulent renverser cette société capitaliste, voilà, qui nous plonge dans les crises. C'est l'inégalité, c'est l'exploitation, c'est la crise climatique, et maintenant ce sont les guerres. Voilà, donc il y a absolument une urgence à se dire que nous ne sommes pas condamnés à cette société capitaliste, qu'on peut construire une autre société et que ça viendra en effet des combats du monde du travail.
Et justement, on va avoir le temps de détailler quelle est votre vision de la société, du pays et du monde. C'est votre troisième candidature. 2012 et 2017, vous avez fait un peu moins d'1%. Est-ce que c'est justement parce qu'il y a ce positionnement et que des Français n'ont pas forcément envie de voter pour quelqu'un qui ne veut pas aller à l'Élysée, ou est-ce que c'est vos idées qui ne rencontrent pas l'adhésion des Français ?
Ah ben je pense que c'est très difficile de se dire qu'il y a une autre voie possible, hein, que finalement les rails là sur lesquels nous sommes en permanence. Et puis qu'est-ce que vous voulez, on subit une pression constante, hein, qui nous dit mais de toute façon voilà, il faut accepter, il n'y a pas d'autre société possible, c'est comme ça, il faut se résigner en quelque sorte. Donc on est confronté à ça, il faut se résigner à tout. De toute façon, il faut se résigner au bas salaire, il faut se résigner à la précarité, au chômage de masse, maintenant il faut se résigner aux guerres aussi.
Est-ce
donc voilà,
vous
c'est
vous
un poids qui pèse comme ça en permanence sur l'ensemble de la société, bien sûr à commencer par les travailleurs eux-mêmes.
Comment vous expliquez que le camp des travailleurs aujourd'hui, il est plutôt incarné par Marine Le Pen? Quand on regarde le vote ouvrier, 40% des ouvriers ont voté pour elle en 2017. C'est plutôt elle qui rassemble les classes populaires.
Non. Elle n'incarne sûrement pas le camp des travailleurs. Non. Elle cherche les voix. Effectivement, de l'électorat ouvrier populaire, ça c'est une évidence. Mais d'abord, l'essentiel en fait du monde du travail s'abstient maintenant, hein, est très très loin, parce que très loin de toute la politique, parce que il y a eu un écœurement, un dégoût d'être baladé comme ça de campagne en campagne, de président de la République en président de la République. Pourquoi ? Pour se retrouver toujours dans la même situation, à galérer pour gagner sa vie, pour gagner son pain, à galérer avec des petites retraites. Donc c'est ça la réalité.
Alors, on va parler de votre programme.
Marine Le Pen, bah écoutez, elle peut pas être dans le camp des travailleurs parce qu'elle divise le monde du travail. Elle cherche à dresser des travailleurs contre les autres, les travailleurs français contre les travailleurs immigrés. Et c'est ça sa politique. Donc je peux vous dire que, vous savez, ça correspond, mais alors 100% à la politique qui est défendue dans les grandes entreprises. Quelle est la politique du grand patronat ? C'est diviser pour régner. Alors ils divisent avec des statuts, des différences de salaire, et puis bien sûr ils jouent aussi sur les préjugés.
On va venir dans un instant sur votre programme et sur les salaires que vous voulez nettement augmenter. Mais un tout petit mot. En 2017, vous aviez voté blanc au deuxième tour, duel Macron-Le Pen. On voit qu'elle est en dynamique aujourd'hui. Si voilà ce cas de figure se reproduit, vous refaites la même chose ?
D'abord, moi je pense que l'influence de Marine Le Pen dans le monde du travail se combat réellement en s'organisant ensemble, en luttant ensemble, en réalisant que quand on appartient au monde du travail, quand on trime du matin au soir, eh bien, on est dans le même camp.
Mais vous revoteriez blanc ou pas, Madame Arthaud ?
Donc moi, je pense pas qu'on puisse faire barrage à Le Pen dans les urnes. D'ailleurs, vous aurez remarqué que depuis qu'on fait barrage à Le Pen dans les urnes, ça fait maintenant 20 ans, hein, elle ne fait que monter. Qui peut croire qu'Emmanuel Macron pourra faire barrage à Le Pen ? Écoutez, ça a été ça, hein, son argument de campagne il y a 5 ans. Aujourd'hui, on se retrouve avec, non pas un candidat d'extrême droite, mais avec deux. Et effectivement, très fort. Pourquoi ? Parce que, y compris, la politique d'Emmanuel Macron apporte du grain à moudre à l'extrême droite. Écoutez, sa politique, là, sa loi contre le séparatisme, hein, qui stigmatisait les musulmans, sa politique contre les migrants, toute cette politique là qui a finalement accrédité, hein, renforcé ses idées nationalistes, ses idées racistes. Alors voilà, c'est ça la réalité. Alors moi je pense qu'en effet, le monde du travail, vous savez, dans les luttes quotidiennes et dans les entreprises, je pense que tout le monde peut réaliser que quand le réveil sonne à 5h du matin ou à 4h du matin, bah il sonne trop tôt pour tout le monde. Voilà, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa nationalité, les cadences, bah c'est dur. Voilà, le labeur, il est aussi difficile, quelle que soit notre origine. Donc quand on appartient au monde du travail, quelle que soit notre origine, nos croyances, hein, eh bien on a un sort commun et on a un combat commun à mener. Vous savez, dès que les luttes démarrent, c'est là que les préjugés reculent.
Alors justement, ce réveil qui sonne, on pourra en faire une métaphore avec votre programme. Pour vous, il est l'heure de sonner le réveil. Et quand on lit ce programme, vous dites c'est un programme de lutte. Moi, je ne fais pas de promesses électorales, mais vous dévoilez, vous dépliez toute une vision pour vous du pays, de la société. Vous insistez évidemment sur le point des salaires. Aucun salaire, aucune allocation, aucune pension de retraite sous les 2000 euros. Pour tout ce qui est versé par l'État, on peut comprendre comment faire, mais pour les entreprises, comment est-ce que vous pensez que les entreprises peuvent vous suivre ?
Alors, si vous permettez, avant que j'entre sur tous ces points-là, je tiens quand même à dire que je suis assez choquée de voir que tous les candidats là déploient leurs belles promesses, hein, en expliquant que eux, arrivant au pouvoir, ils vont faire des 1000 et des 100. On oublie la crise économique qui s'aggrave. On oublie la guerre. On fait comme si ça n'existait pas. On fait comme si on n'entrait pas dans une nouvelle période. Mais ce qui se passe en Ukraine, cette guerre, d'abord, elle est loin d'être terminée. Qui dit qu'elle va pas s'étendre, se généraliser ?
On va en parler.
Qui dit que, y compris cette guerre, va pas avoir des conséquences, mais sociales, politiques, bien sûr à l'Est, mais ici aussi. Et donc, en réalité, là, la crise économique, elle s'aggrave. On le voit avec la flambée des prix.
Alors justement,
comment changer les choses, accompagner cette crise pour soulager les Français ? Il y a cette question des salaires. On reviendra si vous voulez.
Non, mais juste en un mot. Oui. À chaque fois qu'il y a une crise qui s'aggrave, le monde du travail doit se dire que ce sera lui qui va en faire les frais. On va pas demander des sacrifices au grand patronat, non, à eux, on va rien leur demander, comme toujours, ça sera à eux. Donc moi, effectivement, je dis, bah d'abord, il faut penser à se protéger, il faut penser à s'organiser, il faut être conscient qu'en fait, on est capable nous-mêmes de résister justement à toute cette pression qui va nous tomber dessus au prétexte de cette guerre.
Oui, vous nous parliez à l'instant des conséquences de la guerre en Ukraine, c'est évidemment la flambée des prix du carburant, Nathalie Arthaud, plus 4,5% d'inflation en un mois. Alors le gouvernement a pris toute une série de mesures, chèque énergie, blocage des prix du gaz, plafonnement des tarifs de l'électricité. Et puis depuis hier, il y a 18 centimes de remise sur le litre d'essence à la pompe. Est-ce que vous vous dites c'est déjà ça ? Ça va dans le bon sens ?
Bah moi je pense que pour tous ceux qui comptent centime après centime, ça sera un soulagement, mais un soulagement éphémère et dérisoire finalement par rapport à tout ce qui nous tombe sur la tête, voilà, parce que c'est une flambée des prix qui est générale, y compris là aujourd'hui pour acheter ces produits alimentaires, hein, on est confronté, ces fruits, ces légumes.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Donc, on bloque tous les prix ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui le propose.
Moi, je pense que tant que les travailleurs, ils n'ont pas cette capacité de contrôler l'ensemble de l'économie et donc d'imposer un contrôle des prix et d'imposer un blocage des prix d'abord au plus gros, parce que moi ce que je crains, y compris avec ce blocage des prix, c'est qu'on fasse payer les intermédiaires et les petits. Donc tant que on n'a pas cette force là de contrôler toute l'économie, eh bien moi je pense qu'il faut sauvegarder le moyen qu'on a pour vivre quand on est salarié, quand on a la retraite.
Les salaires, donc pour moi, que d'essayer de
c'est l'augmentation des salaires. C'est l'augmentation des salaires, c'est l'augmentation du SMIC, c'est leur indexation. Leur indexation sur les prix, et leur indexation pas une fois par an, pas au bout des 12 mois, alors qu'on a constaté qu'il y a eu quoi, 6, 7, 8% d'inflation réelle pour nous, parce qu'on pourra discuter aussi de l'inflation d'ailleurs.
Mais justement, la spirale inflationniste, alors, quand on indexe automatiquement les prix sur les salaires, c'est le risque.
Je pense que cette indexation, elle doit être faite mois après mois si nécessaire, voire semaine après semaine si c'est nécessaire. Mais dans tous les cas, le monde du travail ne doit pas accepter d'être appauvri. Et j'inclus bien sûr les retraités là-dedans, parce qu'on sait que combien les pensions de retraite sont indigne. Donc, je peux pas accepter cette idée de dire que finalement ça serait les revendications des salariés qui seraient susceptibles de créer une spirale inflationniste. La spirale inflationniste, elle est là. Nous n'y sommes pour rien. Cette spirale inflationniste, c'est le fruit de spéculateurs,
vous avez parlé
de profiteurs de guerre. Donc cela, il faut qu'on les arrête et que nous nous protégions.
Comment vous faites pour obliger les entreprises? Est-ce que vous les expropriez? Est-ce que comment vous faites pour qu'elles augmentent leur salaire à ce niveau-là, 2000 euros pour une petite entreprise? C'est le tissu économique français, les petites entreprises.
Oui, ça, souvent, vous savez, les petites entreprises, c'est l'alibi. L'alibi pour que les plus grosses bloquent les salaires. Mais moi, je peux vous citer un certain nombre de très grandes entreprises. Écoutez, ça va bien sûr de l'industrie automobile, avec tous ces sous-traitants. Mais Carrefour, Leclerc, qui sont pas des petites entreprises. On peut parler de cette grande entreprise qui est la fonction publique. Hein. Regardez les salaires indignes dans la fonction publique. Donc, faut arrêter avec les petites entreprises.
Alors là, le point d'indice va être...
Voilà. Ça va être Paname, voilà.
Pardonnez-moi, non, Nathalie Arthaud. C'est pas vraiment un alibi, les petites entreprises. Si. C'est l'essentiel du tissu économique français. Le CAC 40, c'est 40 sociétés, 1 500 000 salariés sur les 25 millions de salariés en France.
Mais ce sont des grandes entreprises qui ont une kyrielle de filiales, certes, de sous-traitants. Et précisément, ce sont ces grandes entreprises qui prennent à la gorge les intermédiaires. Et vous savez, un certain nombre de petites entreprises, de petits commerçants, mais seraient ravis de voir enfin leur clientèle populaire avoir un peu plus d'argent. Parce que oui, il y aurait plus de gens qui iraient chez le coiffeur, plus de gens qui iraient
ravis d'avoir plus
à
d'argent.
La boulangerie, acheter un petit gâteau. Eh bien ça, ce n'est plus possible, vous voyez. Donc il y a un certain nombre... Vous savez, moi ça me fait penser exactement à ce qui s'était passé en 1968. Je le redis qu'en 1968, avant cette grève générale, on nous expliquait... Enfin, le patronat et ses défenseurs expliquaient aux salariés, mais vos revendications sont de la folie, vous allez mettre l'économie par terre, les petites entreprises, vous allez les ruiner. Bon, eh bien, il y a eu une grève générale. Et cette grève générale, elle a conduit à une augmentation de salaire. Vous vous souvenez de combien?
J'étais un peu jeune.
On peut l'apprendre, c'est important de l'apprendre. 35% d'augmentation du SMIG. C'était le SMIG à l'époque. 35%, vous vous rendez compte? Il n'y a aucune petite entreprise qui a mis la clé sous la porte. Non, ça ne s'est pas passé comme ça.
Prenons un exemple concret, Nathalie Arthaud. Mettons le patron d'une petite entreprise de poids lourd. Aujourd'hui, sa trésorerie est minée par l'augmentation du prix des carburants, son budget carburant. S'il doit augmenter, en plus, toute sa masse salariale. Là, dans l'immédiat, je vous parle pas de questions de long terme, mais il y a forcément des frictions, des tensions qui peuvent se passer, et il peut y avoir, en bout de chaîne, des laissés pour compte si des emplois sont supprimés. Mais c'est pas de la simple théorie, si vous voulez. Ça peut se passer dans l'économie réelle. Vous le savez, vous êtes professeur d'économie.
Vous voyez votre logique, hein ? Votre logique, c'est que comme les transporteurs subissent, finalement, la loi des spéculateurs...
Je parle d'une situation de court terme.
Excusez-moi. Oui, allez-y. Je reprends votre raisonnement. Comme ils subissent la loi des spéculateurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire aux salariés, eh ben, tant pis pour vous. C'est à vous, de crever la gueule ouverte. Voilà tout le fonctionnement de cette société capitaliste. Alors, c'est comme ça.
Vous avez raison. Cette situation
en bout
précise.
De course, en bout de chaîne, c'est toujours le salarié, l'intérimaire, le stagiaire, du sous-traitant qui paye. Eh bien, moi, je suis pour dire ça suffit. La société, justement, elle ne fonctionne que grâce à qui? Grâce à à tous ceux qui sont à la base, à ces ouvriers, y compris qui sont les plus maltraités. Ce sont eux qui sont à la base. Eh bien, moi, je pense que la société, elle devrait fonctionner d'abord pour satisfaire leurs besoins. Et quand même, voilà, encore une fois, moi, toute ma campagne, c'est de dire, quand on appartient au monde du travail, on ne demande pas l'aumône, on ne demande pas la charité. On fait tout dans cette société, on crée les richesses, on fabrique leurs capitaux, on fabrique leurs profits, on fabrique leurs dividendes, on fabrique tout. Voilà, c'est simple. Hein. Eh bien, il faut que nos intérêts fondamentaux, qu'on puisse vivre de notre salaire, dignement. Et on ne cherche pas à vivre d'aide ou je ne sais trop quoi. On doit pouvoir vivre de son salaire et de sa pension de retraite.
Bien, il manque à moi.
Parlons à présent du thème de l'écologie. C'est étonnant, il n'y a pas grand-chose dans votre programme, parce que c'est vrai, 3 petits paragraphes seulement. On a l'impression que vous constatez une impasse, mais que tant que la révolution par les luttes dans les entreprises n'aura pas eu lieu, rien ne sera possible.
Ah, moi, je suis convaincue que tant que c'est cette classe capitaliste-là qui tient les manettes, et en particulier du système productif, parce que c'est ça la réalité.
Mais sur l'écologie.
Tant qu'elle tient les manettes du système productif, eh bien oui, elle saccagera la planète. On continuera avec cette pollution dingue, on continuera avec ce gaspillage, avec ce gâchis, tant que c'est les lois du marché, la loi de l'offre et de la demande. Écoutez, est-ce qu'on peut l'organiser, cette société? Est-ce que cette société, on peut la planifier? Est-ce que on peut produire juste ce qu'il faut, ni plus, ni moins, mais pour répondre aux besoins? On ne peut pas. Donc oui, moi je dis que tant que ces multinationales, on leur laisse les manettes, eh bien ça sera la politique que l'on connaît, je fais mon fric et après moi le délu. déluge. Ils ne respectent rien, ni la nature, ni les êtres humains. Donc, le système, le problème de l'écologie, c'est pas un comportement individuel. Le problème de l'écologie, c'est comment la société est organisée. Donc, ça pose en effet la question de notre organisation sociale. Le capitalisme ou son renversement.
Mais par exemple, prenons l'exemple du nucléaire. Fabien Roussel, il est communiste. Alors, pas exactement comme vous, mais ça...
Ah non, pas
non,
exactement
mais c'est,
comme
c'est
moi.
Aussi un communiste. C'est une énergie d'avenir à ses yeux, face à l'urgence climatique. Il faut investir. Quelle est votre position là-dessus?
Moi, ma position, c'est que la question, c'est qui dirige? Qui dirige?
EDF,
qui
contrôle, c'est une entreprise publique.
Oui, mais c'est une entreprise publique. Mais vous savez, est-ce que vous avez le droit de vote? Est-ce que vous avez le droit de vous exprimer? Est-ce que la décision qu'a prise Emmanuel Macron, alors maintenant on va sur le nucléaire et des réacteurs par-ci, des réacteurs par-là, etc. Est-ce que vous pensez qu'elle a été prise en se posant la question de la sécurité? De l'avenir des générations futures.
Donc lutte ouvrière est contre le nucléaire ?
Non, moi je suis contre la façon...
Parce que c'est des emplois aussi.
Je suis contre ceux qui aujourd'hui décident, ceux qui gouvernent. Et ce que je sais, c'est qu'ils gouvernent en fonction du business, en fonction des contraintes économiques. Là aujourd'hui, en fonction de la guerre en Ukraine, en fonction de la rivalité. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'on parle plus de planification écologique. Là maintenant, de quoi parle-t-on ? De la planification du réarmement. Faut tous se réarmer jusqu'aux dents. Alors vous voyez comment ces beaux discours passent toujours de toute façon derrière des intérêts, d'autres types d'intérêts. Moi, c'est ça que je dénonce. Et tant que ça sera ça, eh bien, on ne pourra pas raisonner en fonction justement de la sécurité et de la planète.
La position de la France dans la guerre en Ukraine, sanctions économiques avec l'Union européenne, livraison d'armes pour soutenir l'Ukraine, organisation d'opérations humanitaires en négociant avec Vladimir Poutine. Est-ce que vous trouvez que c'est le bon curseur, stopper la guerre sans la faire?
Non, moi je ne fais aucune confiance dans le gouvernement français, dans Emmanuel Macron, pour régler la situation dans un sens favorable aux Ukrainiens. Voilà, je n'ai que de la méfiance, parce que j'ai eu l'occasion de le dire, mais Vladimir Poutine mène une guerre qui est monstrueuse et il a fait ce choix-là. Cela n'exonère pas. De leur responsabilité, le camp impérialiste, l'OTAN, Biden et Emmanuel Macron. Donc moi, ce que je vois,
vous envoyez dos à dos clairement
aussi
Biden et Poutine, mais aujourd'hui c'est Poutine qu'il faut arrêter. Qu'est-ce que vous feriez? Mais pour l'arrêter, le chef du Kremlin aujourd'hui.
Ah, qu'est-ce que je ferais
dans sa folie sanguinaire?
Qu'est-ce que je ferais si j'avais moi les moyens de m'adresser, y compris aux protagonistes essentiels? Ben moi, je chercherais à m'adresser aux Russes, aux petites gens, aux travailleurs, aux ouvriers, à tous ceux qui ont été enrôlés dans cette guerre, qui ne l'ont pas voulu. D'ailleurs, on sent...
Vous les appelleriez à se soulever,
bien sûr, à se soulever, parce que c'est comme ça que de nombreuses guerres ont été arrêtées. C'est comme ça que de nombreuses guerres ont été arrêtées.
Y compris au risque de mourir, puisque c'est...
Et vous remarquerez qu'il y a d'ailleurs déjà combien? Peut-être 10 000, peut-être 15 000 soldats russes morts. Je pense que en Russie, un certain nombre de familles, là, déjà, pleurent un mort. Et je pense que oui, toutes ces souffrances-là, elles peuvent amener un certain nombre de Russes à finalement contester Poutine. En tout cas, ça s'est déjà vu. Je tiens à le dire que ça s'est déjà vu d'ailleurs en Russie, en Ukraine, avec justement la révolution en Russie en 1917.
Logique des sanctions, pour vous, n'est pas du tout la bonne. La France est moins dépendante que l'Allemagne, par exemple, du gaz russe, 20% seulement. L'idée de baisser, voire de supprimer, au moins pour la France, ses approvisionnements depuis la Russie. Mauvaise idée?
Mais voyez, même ça, ils le font pas. La réalité, c'est
mauvaise idée ou bonne idée?
Ils le font pas. Moi, de toute façon, je suis contre des sanctions qui pourraient retomber sur les travailleurs, sur tous ceux qui souffrent déjà, sur tous ceux qui sont déjà pauvres, parce que c'est
donc on ne touche pas du tout au gaz
sur les sanctions. Vous savez, quand on nous dit oui, c'est contre les oligarques russes, mais ils ont de l'argent par-dessus la tête, et puis ils continueront d'en faire en pillant effectivement l'économie russe, et puis ils iront à Dubaï, ils seront accueillis comme les rois du pétrole à Dubaï.
Et les entreprises françaises, Nathalie Arthaud. Entreprises françaises qui continuent à commercer en Russie, c'était le premier employeur étranger en Russie. Si elles arrêtent leur activité, en effet, ça va retomber sur les travailleurs russes que vous voulez prendre en compte.
Oui.
Tant qu'elles les maintiennent, ça finance indirectement la guerre de Poutine. Là, il y a un dilemme pour vous.
Ah mais moi il n'y a pas de dilemme depuis le début. Moi, ma politique et mon principe, c'est que les grandes entreprises, partout, elles devraient être entre les mains des travailleurs, vous voyez. Donc c'est ça ma politique. Ce que je sais, c'est tant qu'elles ne le sont pas, elles ne fonctionnent pas pour répondre à nos besoins et sûrement pas pour s'inquiéter du sort de leurs travailleurs. On voit très bien ce qui se passe ici, hein. Ils voient pas plus loin que le bout de leur portefeuille, et les travailleurs, eh bien, ils les soumettent à des cadence de plus en plus dure, une discipline de plus en plus dure, des bas salaires. Mais c'est pareil là-bas. Donc moi, ma politique, elle est là. Ce que je tiens à dire par rapport aux sanctions et par rapport à l'embargo, c'est qu'il faut regarder tous les embargos de l'histoire. En particulier celui en Irak. Celui en Irak, moi, j'ai en tête que l'UNICEF dit qu'il aurait fait près de 400 000 morts en Irak, dans les années 90. C'est cela qu'on veut, et c'est comme ça qu'on pense pouvoir arrêter la guerre. Donc en punissant
sur la
population russe, qui n'a
le principe
rien,
même des sanctions,
qui ne l'a pas voulu
bien ce matin.
Cette guerre,
à 9 jours de l'élection, 8 jours de l'élection présidentielle, Nathalie Arthaud, c'est cette affaire McKinsey, le recours par l'État ces dernières années à des cabinets de conseil privés, près de 900 millions d'euros, rien que l'année dernière d'après le Sénat. On va écouter la réaction d'Emmanuel Macron interrogé à ce sujet, vous allez le voir, une pointe d'agacement dans la voix du président candidat.
Il a passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent.
Donc tout est clair là-dessus.
Non mais donc, oui, sinon c'est du pénal.
D'accord.
Et donc, il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux.
Voilà, rien d'illégal pour Emmanuel Macron. Vous y voyez un scandale d'État ?
Oui, bah moi j'y vois un scandale permanent, j'ai envie de dire, hein. Vous savez, il y a un certain nombre il y a beaucoup de parasites, hein, dans cette société, hein, de gens qui font rien, hein, et qui en effet profitent des richesses et voilà. Mais moi ce que j'ai envie
quand l'État n'a pas les compétences dans une crise comme la crise sanitaire pour organiser une vaste campagne de vaccination.
Non, mais moi je vous savez, j'ai regardé un petit peu de près, hein, à quoi ont servi ces fameuses expertise, en particulier le demi-million pour l'éducation nationale pour organiser un colloque qui, au bout du compte, n'a pas eu lieu sur les missions de l'enseignant. Moi, j'ai expliqué, moi je suis enseignante, donc je réfléchis aux métiers, aux missions des enseignants tous les jours, et en plus face à des élèves, vous voyez, donc je sais un peu de quoi je parle. Moi, je ne demande pas un demi-million. Je demande juste une augmentation de salaire. Et je pense qu'il faut bien réaliser que on n'a pas besoin, justement, mais de tout cet appareil d'État, y compris ces hauts fonctionnaires. Ces hauts fonctionnaires qui ont une ligne de conduite, hein. C'est de tout, comment on va faire pour prendre l'argent dans des services utiles à la population pour les mettre dans les caisses du grand patronat? On n'a pas besoin de cette politique-là, et on n'a pas besoin de tout cela qui, en réalité, sont au service de la grande bourgeoisie. Moi, je le redis, dans cette société, les experts, ce sont les travailleuses et les travailleurs. Ce sont eux qui savent faire le boulot, qui savent comment le faire bien.
Merci à vous, Nathalie.